Chapitre 34. Samedi. 7 heures du matin. Plus que 13 heures et des poussières. Peut-être moins. Peut-être plus. Comment savoir? Mon service était fini, mais la personne qui devait prendre la relève ne s'était pas présentée, et j'étais donc enchaînée à un bureau où les téléphones sonnaient toujours. Divers habitants de Boston qui se trouvaient dans divers états de panique. J'avais commencé mon service par toute une tapée d'accidents de la circulation. Chat contre auto, moto contre poteau, ado bourré numéro 1 contre ado bourré numéro 2. À 2 heures du matin, les bars avaient fermé et les téléphones avaient chauffé. Tina Limmer, 375 Markham Street, avait appelé pour signaler que son petit copain était un connard. Je crois qu'elle l'avait surpris en train de s'envoyer sa meilleure amie. Malheureusement, le fait d'être un connard n'était pas encore passible de sanctions devant les tribunaux, et j'ai donc dû mettre un terme à la conversation. Pile à ce moment-là, Cherry Vase, 896 Concord Avenue, signalait une odeur de fumée dans la cage d'escalier de son immeuble. J'ai envoyé 2 agents et les pompiers en prime. Les agents ont arrêté 2 septuagénaires bourrés qui essayaient vaillamment de prouver qu'on peut mettre le feu à un paix. Les pompiers se sont marrés, ont profité du spectacle. J'ai enchaîné avec Vinnie Pearl, 95 Wentworth Way. Lui voulait signaler qu'il avait perdu son nez. Au terme d'une brève recherche, j'avais réussi à le guider jusqu'à la salle de bain de son appartement. Il a retrouvé le dit nez dans le miroir. Le fin mot de l'histoire, c'était que Vinnie avait passé le plus clair de son vendredi à fabriquer du limoncello artisanal. D'où son 2e appel 10 minutes plus tard, pour signaler qu'il avait cette fois perdu ses lèvres. Il ne les sentait plus, toute sa bouche avait disparu. J'ai ordonné à Vinnie de prendre 4 aspirines, 3 verres d'eau, et lui ai souhaité bon courage pour le lendemain matin. Cet appel s'est terminé juste à temps pour la première de 3 rixes de bar, suivi de 2 appels pour violence conjugale, puis un autre accident de voiture, 4x4 militaires contre 3 voitures garées. Les voitures garées avaient perdu. Le 4x4 n'était pas trop vaillant non plus et le conducteur, rond comme une queue de pelle, avait été interpellé, comme on dit, sans incident. Vers 3 heures du matin, j'ai mangé mon blanc de poulet froid et un demi-pamplemousse au bureau. À 4h30, une accalmie dans le volume d'appels m'a permis, incroyable mais vrai, d'aller aux toilettes. À 5h30, j'ai tenté de me connecter à Facebook depuis l'ordinateur du commissariat. Je voulais voir la page à la mémoire de Randy et Jackie. J'ai eu 8 minutes pour m'étonner de la longue liste d'amis, de l'épanchement de souvenirs communs et de regrets doux amers. Puis l'écran s'est de nouveau illuminé, voiture contre piéton cette fois-ci. Le piéton était blessé, mais il avait quand même pu appeler le 911 pendant que le chauffard prenait la fuite. Randy ne s'était douté de rien le 21. Pour autant que je sache. La police n'avait jamais retrouvé la moindre trace de menace, de comportement suspect. Elle menait une petite vie repliée sur elle-même, et son amie la plus proche était sans doute sa prof de yoga, d'après laquelle Randy n'avait rien signalé d'inhabituel. Donc le 21, le jour s'était levé comme n'importe quel autre jour. Sortir du lit, accomplir les gestes quotidiens, sans avoir la moindre idée, le moindre pressentiment que ce serait son dernier jour sur Terre. Qu'est-ce qui vaut mieux? Ne pas voir la mort arriver, ou passer la dernière année comme je l'avais fait dans un compte à rebours de chaque minute, en planifiant chaque seconde qui me rapprochait d'une menace de mort. Jackie avait pleuré le matin du 21. J'en étais certaine. Elle avait dû se réveiller avec le même sentiment pesant que moi. On y était. 1 an jour pour jour que Randy était morte et la police n'avait toujours aucune piste, aucun élément nouveau dans l'enquête. Notre amie d'enfance avait été assassinée sans raison et nous avions toujours plus de questions que de réponses. Jackie avait dû commencer sa journée dans le silence, la retenue. Peut-être avait-elle mis un collier de perles en souvenir de Randy? Ou acheté des fleurs? Ou écouté le groupe préféré de notre amie, Journey, en allant au travail? Comme j'étais dans le New Hampshire, je m'étais rendue sur la tombe de Randy ce matin-là avec un bouquet de roses jaunes acheté au supermarché. J'avais craint d'y croiser ses parents et de ne pas savoir quoi dire, mais le cimetière était désert et je me tenais seule sur la neige compacte, grelottant dans l'air à -10, et je sentais les larmes couler et geler sur mes joues. Jackie avait sans doute été préoccupée le 21, mais elle ne pensait probablement pas à elle-même, elle ne percevait pas cette tension persistante. Cette fêlure, la peur. Ce qui expliquait peut-être qu'elle ait été dans un bar. Elle était triste, pas effrayée, elle avait dû penser qu'une sortie lui remonterait le moral. D'après la police, elle avait rencontré une femme ce soir-là, Une inconnue en toute logique, puisqu'aucune amie ni connaissance ne s'était présentée pour témoigner qu'elle était avec Jackie pendant ces dernières heures. Donc, elle était allée dans un bar, elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait plu, quelqu'un qui semblait assez sympa, assez correct pour qu'elle l'invite chez elle. Pas de lutte. J'en revenais toujours à cette idée, non seulement mourir, mais mourir sans résister. Je ne pouvais pas imaginer ça. Quand les mains de JT s'étaient refermées autour de ma gorge, j'étais restée frappée de stupeur, momentanément paralysée. Mais ensuite était venu l'instinct de respirer, le désir de me rebeller, de me battre comme une forcenée pour avoir de l'air. Randy était douce, mais Jackie avait toujours été opiniâtre. Une femme qui s'était battue pour devenir vice-présidente d'une grande entreprise à l'âge de 26 ans n'était pas une chiffre molle. Alors que s'était-il passé ce soir-là? Qui avait-elle rencontré? Qu'avait-il pu se produire pour qu'elle se soumette à son destin avec une telle passivité? Je retournais ces questions dans ma tête, comme je le faisais depuis un an. Sans trouver de réponse, juste le moyen de me cisailler un peu plus les nerfs. Les téléphones sonnaient, mes mains tremblaient, et je travaillais, les dents serrées, le corps fébrile, et j'avais une envie folle de sentir le torus dans mes mains. 7 heures du matin. 8 heures. 9 heures. À 9h15, le sergent Collins est venu à la porte du local m'annoncer que celle qui devait prendre la relève s'était fait porter pâle. On cherchait une remplaçante. En attendant, il fallait que je tienne la baraque. C'était un constat, pas une question. Ça fait partie du boulot. Quelqu'un doit impérativement répondre au 911, donc impossible de partir avant que le suivant soit arrivé et ait posé ses fesses dans le fauteuil. Pas de remplaçante, donc pas de retour à la maison pour moi. 10 heures. 11 heures. Mes dernières heures s'écoulaient dans la pénombre d'un centre opérationnel où je gérais les crises des autres, où je résolvais leurs problèmes. C'est ainsi que finit le monde, me suis-je dit en me souvenant du poème de T.S. Eliot que j'avais appris au lycée. Pas sur un boom, sur un murmure. Je voulais me battre. Quoi qu'il pût se passer ce soir, je voulais être celle qui aurait fait des dégâts, infligé des blessures. Que je gagne ou que je perde, le commandant Didi Warren et son équipe trouveraient de nouveaux indices sur ma scène de crime. J'y étais déterminée. 11h30. Shirley Wertz est arrivée. Boucle noire retenue par un bandana rouge, sac d'étudiante plein à craquer sur l'épaule. Nous avons passé en revue le journal des appels. Je l'ai mise au courant pour ce poivreau de Vigny dont le corps disparaissait par petits bouts. Après quoi, je lui ai donné mon casque. Je me suis dirigée vers la porte et j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Est-ce que ça allait me manquer ? Je prenais 2 semaines de vacances, c'était tout ce que j'avais dit à mes supérieurs. Comme ça, pas de foin autour de mon départ, pas de questions déchirantes sur mon avenir, ma vie après le 21. C'est drôle, mais j'avais la gorge serrée. En regardant l'écran Annie Ali, j'étais suffoquée. J'avais aimé ce travail. Je tenais à mes agents, je savais quelle responsabilité et quel honneur c'était d'assurer leurs arrières. J'avais le sentiment qu'à mon tout petit niveau, dans cette pièce obscure, en répondant à ses téléphones, j'avais été utile pendant cette dernière année. 11h45. Plus que 8h15. J'ai repris ma sacoche. Je suis sortie du commissariat de Grosvenor et je me suis obligée à ne pas regarder en arrière. Je suis allée droit vers mon pistolet, au bout du parking, sous le buisson épineux. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Personne à l'horizon, alors je me suis baissée pour le récupérer. Sauf qu'il n'était plus là. J'ai fouillé, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, puis, renonçant à tout faux-semblant, j'ai frénétiquement fourragé à 2 mains dans le monticule de neige, comme un fox terrier creuse dans la terre. Rien. Le pistolet avait disparu. Ne restait plus qu'un trou glacé et autour le sable des épandeuses et de la terre de ville. Au loin, des sirènes ont hurlé. 1, 2, 3 voitures de patrouille. Qui avait pu le prendre ? Je n'en avais parlé à personne, je l'avais planqué au dernier moment quand personne ne regardait. Comment quelqu'un avait-il pu prévoir une chose que j'ignorais moi-même ? Mes cheveux se sont dressés dans ma nuque. J'avais compris. L'assassin était à Boston. Il ou elle me surveillait, et il ou elle avait déjà un coup d'avance. On y était. Plus de compte à rebours. Mon propre assassinat avait officiellement commencé. Ça a été plus fort que moi. Titubante, je me suis éloignée du tas de neige sale, souillée, et désarmée, en proie à une réelle panique, je me suis mise à courir.